Bonjour à toutes et à tous. Ceci est un enregistrement fait après coup d'une communication que j'ai faite le jeudi 12 octobre à Rennes dans le cadre du séminaire « Parler de foutre, dire le sexe au Moyen-Âge », séminaire du laboratoire CETM de l'Université de Rennes. Et ce séminaire est dirigé par Fabienne Pommel et Christine Ferlampin-Haché. Ma communication s'intitule « Faire l'amour en période menstruelle, un extrême danger » d'après les textes de type « Secret des femmes, 13e, 15e siècle ». Pour démarrer cette communication, j'ai décidé de vous faire rentrer avec moi in medias res dans le sujet avec une citation dont je ne vous donnerai pas le contexte, si ce n'est qu'elle est extraite d'un commentaire latin anonyme du début du XIVe siècle, d'un texte latin lui-même anonyme de la fin du XIIIe siècle. Voici cet extrait. Il faut faire extrêmement attention à ne pas pratiquer le coït avec des femmes menstrueuses, parce que, de ce fait, un homme pourrait contracter la lèpre, et parfois une grande infirmité, parce que les veines traversent chaque organe jusqu'aux testicules, et quand ceux-ci sont blessés, tout le corps est rapidement blessé. Pour cette raison, Dia dit que si tu as approché sciemment une femme menstrueuse, tout ton corps sera infecté et très affaibli. Et il faudra au moins un mois pour que tu le retrouves avec sa vraie couleur et force. Et de même qu'une substance liquide colle à tes vêtements, de même cette fétidité corrompt tous les organes intérieurs de l'homme. Le vénérable Hippocrate dit à propos de la nature des hommes « Tu n'approcheras pas une femme menstrueuse parce que l'air est corrompu par cette fétidité et tous les organes intérieurs de l'homme se retrouvent mêlés à elle. » Ce texte peut sembler comporter beaucoup d'excès pour les lectrices et lecteurs que nous sommes. Et il soulève d'emblée de nombreuses questions. Comment en est-on arrivé à une telle vision ? Qu'est-ce que l'ouvrage d'où sort ce texte ? Est-ce que cela reflète l'opinion des contemporains ? Est-ce que cette version a été vouée au succès ? C'est donc pour répondre à ces questions que je ferai cette communication, suivant un plan en 6 parties. Dans la première partie, menstrues, sexe et lèpre, je présenterai le scénario, que j'ai appelé un scénario efficace, que l'on trouve dans les textes de type « Secret des femmes ». Dans la deuxième partie, je m'interrogerai sur la principale victime de ce phénomène d'après ces textes et d'après d'autres textes, à savoir s'il s'agit de l'homme ou du fœtus. Dans les troisième et quatrième parties, j'aborderai à chaque fois un cas particulier de ce scénario qui n'existe que dans les textes de type secret des femmes. Et dans les cinquième et sixième parties, je m'attarderai sur d'autres textes. Dans la cinquième partie, sur des textes qui, au contraire, semblent s'écarter du scénario. Et dans la sixième partie, sur des textes pour lesquels il manque un élément du scénario, mais qui lui semble cependant apparenté. Première partie, menstrues, sexe et lèpre, un scénario efficace. Et j'aborderai ici le scénario le plus courant dans les textes de type secret des femmes. Il faut donc auparavant expliquer de quoi il s'agit quand je parle de textes de type secret des femmes. Alors, au départ, on a à la fin du XIIIe siècle un texte latin, dont le titre latin est « De secretis mulierum », c'est-à-dire « Les secrets des femmes », dont on ne connaît pas l'auteur. Il est attribué à Albert le Grand, mais il est clair, il est absolument clair d'après un certain nombre d'indices historiques que ce n'est pas lui l'auteur de ce texte. D'après ce qu'ont pu en déduire les chercheurs, ce texte semble avoir été produit dans la zone germanique de l'Europe médiévale et écrit par un moine à destination d'autres moines. Ce texte, ce traité, donc, est voué à un succès énorme, puisqu'on le retrouve actuellement dans une centaine de manuscrits, ce qui est un nombre énorme pour le Moyen-Âge, puisque la moyenne d'un texte, c'est plutôt autour de un, deux ou trois manuscrits. Ça, c'est déjà à partir de 10 manuscrits, on commence à parler d'un livre à succès. Autre élément du succès, en plus du nombre de manuscrits, c'est que ce texte latin va être dans les décennies suivantes traduit dans plusieurs langues vernaculaires, c'est-à-dire des langues parlées par les gens, autres que le latin, donc notamment en français, mais aussi en anglais, en italien, en néerlandais, et dans d'autres langues. Donc moi, ce que j'ai utilisé comme corpus pour ma thèse sur la vision des menstrues au Moyen-Âge, et qui sera également mon corpus pour cette communication, c'est le texte latin, le premier texte, texte original, deux de ces traductions françaises, dont l'une qu'on appelle « Secret des femmes » et l'autre qu'on appelle « Secret des dames », voilà, les titres peuvent varier, mais par commodité, c'est ces titres-là qui sont employés parce qu'ils apparaissent au moins une fois chacun dans les manuscrits. Et puis, le troisième élément qui montre le succès de ce texte, c'est des commentaires latins qui en ont fait, c'est-à-dire à partir là aussi de quelques décennies plus tard, on commence à voir des manuscrits qui présentent le texte latin avec un commentaire écrit par un érudit, un professeur, enfin quelqu'un. Et le commentaire est souvent bien plus long que le texte lui-même, ce qui fait que le commentaire en lui-même constitue un texte. Donc il y a deux de ces commentaires latins qui ont eu particulièrement du succès, que j'ai appelé commentaire A et commentaire B, tout simplement parce que c'est le nom que leur donne une chercheuse qui a travaillé sur ces textes, donc Hélène Rodnait-Lemay. Et ces deux commentaires, donc les plus répandus, vont constituer les quatrième et cinquième éléments du corpus de cette communication. Donc, pour commencer, pour vous présenter ce scénario, qui est donc une sorte de triangle reliant les menstrues, le sexe et la lèpre, je vais vous lire les passages des textes du corpus qui énoncent ce scénario. Et pour commencer, bien sûr, le passage du premier de ces textes, le De Secretis Mulierum. Et quiconque doit prendre garde à ne pas pratiquer alors le coït, parce que c'est dangereux. Mais les femmes prudentes savent alors se garder et se séparent des hommes pendant la période du flux menstruel. Donc un texte relativement court pour ce premier texte. Voici ce que dit le secret des femmes, qui est un petit peu plus long. Alors pour les textes, oui, je précise que pour les textes latins, je vous lis directement ma traduction en français. Pour les textes en ancien français, je les lis dans leur version originale, mais en faisant parfois quelques petites modifications vers le français moderne pour plus de fluidité à l'oral. Donc l'extrait du secret des femmes dit ceci. Pour ceux, se doivent bien garder les hommes d'habiter avec telle femme, par espécial quand elles sont vieilles. Et je crois que plusieurs deviennent ladres, c'est-à-dire lépreux, pour cette cause. C'est à savoir quand les hommes engendrent enfants en femmes qui ont cette maladie et en deviennent souvent ladres eux-mêmes. Item, ceux qui ont la verge blessée et entamée, s'ils habitent avec de telles femmes, ils sont en aventure de perdre leurs membres. Et pour ceux, les femmes qui sont sages et discrètes, se doivent bien garder d'habiter avec des hommes quand elles souffrent cette maladie. Cette règle garde bien encore les Juifs, car ce leur est étroitement commandé en leur loi. C'est à savoir que les hommes n'aient compagnie avec leurs femmes, qu'elles ne soient premièrement lavées. Donc là, vous voyez que le texte est un petit peu développé. Dans Le secret des dames, on revient à quelque chose de très court, qui est pratiquement une traduction mot à mot du premier texte que je vous citais. « Ah donc, je conseille à l'homme qu'il se garde de habiter à femme qui a cette maladie. Et sachez qu'il n'est nul qui ne le sache bien. » Qu'autrement l'un ou l'autre serait en péril. Le commentaire B ne revient pas sur ce passage. En revanche, le commentaire A y revient. Voici comment. Et alors, il est dangereux de pratiquer le coït avec elle, parce que les enfants qui sont alors conçus ont tendance à être atteints d'épilepsie et de lèpre, parce que cette matière est assez vénéneuse. Alors, oui, et puis donc, dernier passage que j'ai souhaité vous livrer, c'est aussi dans le commentaire A, mais pas dans le passage qui concerne notre scénario précis, mais au tout début, dans le prologue. Donc, ce qu'on appelle le prologue, c'est une sorte de texte écrit avant le texte lui-même qui annonce, bon, ça existe encore aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, c'était vraiment très fréquent, et c'était en général un texte programmatique de ce qu'il y allait y avoir dans le contenu du texte. Donc le prologue d'un commentaire va résumer ce qu'il va y avoir dans le texte lui-même. Et donc le prologue de ce commentaire A nous dit ceci: la cause motrice, c'est-à-dire la cause pour laquelle ce texte a été écrit, hein, c'est un certain prêtre qui a demandé à Maître Albert qu'il lui écrive un livre sur les secrets des femmes. Et cela pour cette raison que les femmes sont venimeuses en période menstruelle, si bien qu'elles intoxiquent les animaux par leur regard, infectent les enfants dans leur berceau, tachent un miroir bien poli et rendent celui qui pratique le coït avec elles soit lépreux, soit cancéreux. Donc on a quatre points négatifs concernant les femmes menstruées. Donc les trois premiers, je ne vais pas en parler dans cette communication, mais le dernier, c'est bien notre scénario. Alors, par rapport à ces textes que je vous ai cités, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser pour les analyser et les commenter. Quelle est la nature du danger? Quelle est la victime de ce danger? Et qui sont les actrices de cette mise en danger? En ce qui concerne la nature du danger, on peut avoir un danger général et assez vague. C'est ce qui est évoqué dans le premier texte, qui finalement est moins dans l'excès que les textes suivants, hein, puisque le De Secretis Mulierum disait seulement parce que c'est dangereux. On retrouve aussi cet élément de danger relativement vague dans le Secret des Dames, où on nous dit l'un ou l'autre serait en péril. Et puis, au tout début du premier texte que je citais du commentaire A, qui nous dit: et alors, il est dangereux de pratiquer le coït. Alors, à part ce danger assez vague, dès que un texte essaie d'évoquer un danger plus précis, on va le plus souvent vers la lèpre, qui est évoquée donc dans Le Secret des femmes. Je crois que plusieurs deviennent ladres. Ils deviennent souvent ladres eux-mêmes. Dans le commentaire A, ils ont tendance à être atteints d'épilepsie et de lèpre, et dans le prologue du commentaire A, rendent celui qui pratique le coït avec elle soit lépreux, soit cancéreux. Quelques autres aspects sont évoqués dans un texte ou dans l'autre. Alors à chaque fois, il y a une seule occurrence. Dans le Secret des femmes, on dit aussi qu'ils sont en aventure de perdre leurs membres, c'est-à-dire de perdre le membre sexuel, la verge. Dans le commentaire A, on évoque aussi le risque d'épilepsie, et enfin, dans le prologue du commentaire A, le risque de devenir cancéreux. Qui est la victime de ce danger? Il s'agit, dans presque tous ces textes, des hommes. Quiconque doit prendre garde à pratiquer le coït, c'est dangereux. Ça, c'était dans le De Secretis Mulierum. Ensuite, dans le Secret des femmes, les hommes. Dans le Secret des dames, l'un ou l'autre. Donc, on évoque quand même très légèrement la possibilité d'un danger pour la femme elle-même. Et dans le prologue du commentaire A, rendent celui qui pratique le coït avec elle soit lépreux, soit cancéreux. Alors, la seule exception, c'est dans l'autre passage du commentaire A, qui disait: les enfants qui sont alors conçus ont tendance à être atteints d'épilepsie ou de lèpre. Donc, la victime, presque toujours les hommes, et juste une petite fois les enfants. Donc, là-dessus, j'y reviendrai largement dans la deuxième partie, puisque c'est un point vraiment très important d'observer les victimes annoncées de ce danger. En ce qui concerne les actrices de la mise en danger, il s'agit toujours explicitement des femmes menstruées et on nous dit en particulier qu'elles sont conscientes du danger qu'elles font courir. On l'a dans le De Secretis Mulierum qui nous dit « les femmes prudentes savent alors se garder », dans le Secret des femmes qui dit « les femmes qui sont sages et discrètes se doivent bien garder », et dans le Secret des dames « il n'est nul au féminin qui ne le sache bien ». Donc ça, on reviendra aussi sur cette question de conscience du danger de la part des femmes, d'après les textes de ce type. Autre point concernant les actrices de la mise en danger, alors c'est juste un aspect sur lequel je passe assez rapidement parce qu'on pourrait en dire beaucoup de choses, c'est la question des vieilles femmes. Donc ça, c'était évoqué au détour d'une phrase dans la version du Secret des femmes. Donc je vous relis la phrase. « Pour ceux doivent bien garder les hommes de habiter avec telle femme, paraît spécial quand elles sont vieilles. » Donc tout ce qui concerne les vieilles femmes, c'est en fait tout ce qui est reproché aux femmes menstruées est encore plus reproché aux vieilles femmes. Alors on pourrait s'en étonner et se dire qu'a priori une vieille femme est une femme ménopausée, et donc elle n'a plus de sang menstruel dans son corps. Mais au contraire, au Moyen-Âge, on pensait qu'une femme qui n'a plus de perte menstruelle, ce n'est pas qu'elle n'a plus de sang menstruel dans son corps, au contraire, elle a une quantité concentrée de sang menstruel, puisque, d'après eux, son corps continue à en produire, et donc si elle ne le perd plus, c'est qu'il reste concentré dans son corps. Et si on admet ce qui était le cas aussi pour la plupart des auteurs du Moyen-Âge, que ce sang menstruel est toxique, évidemment, pour les vieilles femmes, ça fait une quantité de matière toxique extrêmement, une très grande quantité de matière toxique. Dernier point que je voulais aborder sur la présentation de ce scénario dans ce corpus, c'est le fait, comme je vous l'ai dit, que ce scénario apparaît avec d'autres scénarios dès le prologue du commentaire A. C'est très important puisque ce prologue est très court, c'est une sorte, ça ressemblerait un peu à ce qu'on appellerait aujourd'hui une bande-annonce, hein, et donc ça montre bien l'importance qu'accordait à ce scénario l'auteur du commentaire et l'importance qu'il supposait être accordée par ses lecteurs. Deuxième partie, la principale victime, l'homme ou le fœtus. Comparaison entre la victime la plus couramment désignée dans les textes de type secret des femmes et dans les autres textes médiévaux. On vient de le voir, dans les textes de type secret des femmes, ce sont largement les hommes qui sont désignés comme victimes, sauf un cas où il s'agit du fœtus. Avant de parler des textes autres que le secret des femmes, qui parlent de ce scénario et surtout de la victime, je voudrais faire une précision préalable. En effet, ce type de croyance, à savoir que le coït en période menstruelle cause un danger pour l'homme ou pour le fœtus, c'est un type de croyance qui est très répandu dans de nombreuses civilisations. Alors, moi, je vais rester dans l'Europe médiévale, mais je précise cela parce que il ne faut, même en restant dans l'Europe médiévale, il ne faut pas forcément chercher des sources écrites savantes, mais aussi aller voir du côté des traces souvent implicites qu'on peut avoir dans le folklore. Et pour ce cas particulier, je voulais notamment attirer l'attention sur l'histoire de Mélusine, qui est une fée légendaire qui apparaît dans des romans du Moyen-Âge et qui est ensuite rentrée dans le folklore, enfin qui s'inspire sans doute déjà de légendes folkloriques. Et alors évidemment, dans la légende de Mélusine, il n'y a pas de lien explicite avec les menstrues, mais il y a plusieurs indices implicites. Le fait qu'elle ait le bas du corps monstrueux, hein, une forme de queue de dragon. Le fait que, à certaines périodes, elle interdise à son mari non seulement d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais même de la voir. le fait que quand son mari transgresse l'interdit et essaie de regarder par le petit trou de la serrure, il la voit en train de prendre un bain. Or, la notion de bain purificateur après la période menstruelle est quelque chose qu'on retrouve explicitement ou implicitement dans beaucoup de sources, que ce soit des textes ou des images. Et enfin, ce qui m'intéresse par rapport à notre scénario, tous les enfants de Mélusine, tous les enfants qu'elle a eus avec son mari, étaient infirmes ou mal formés. Et vous voyez que ça rejoint le scénario que nous évoquons quand c'est les enfants qui en sont victimes. Donc cette précision étant faite, si on essaie de regarder maintenant plutôt dans les textes savants, les textes écrits du Moyen-Âge, on voit qu'on a quelque chose de complètement différent de nos textes de type secret des femmes, puisque le danger pour l'homme est très rarement évoqué, est presque inexistant explicitement, et c'est beaucoup plus le danger pour le fœtus qui est évoqué. Et là, la quantité de sources est innombrable, des dangers pour le fœtus. Donc, ce que je vais vous citer, c'est la première source écrite dont on est certain, qui date donc du tout début du Moyen-Âge, et même, pourrait-on dire, de la fin de l'Antiquité, puisqu'il s'agit d'un texte de Jérôme de Stridon, autrement appelé Saint Jérôme. Donc Jérôme est le traducteur en latin de la Bible, et c'est sa version latine de la Bible qui a été utilisée pendant près de 1000 ans du 4e, du 4e, 5e siècle, époque où il l'a produite, jusqu'au 15e, 16e siècle. Donc, Saint Jérôme n'a pas seulement traduit la Bible, mais il en a également écrit une glose, c'est-à-dire un commentaire, verset par verset. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la glose de Jérôme sur le passage d'Ézéchiel en 18:6. Alors, dans ce chapitre d'Ézéchiel sont énumérées toutes les choses qu'un sage ne doit pas faire. Et dans le verset 6 en particulier, il est écrit, alors je vous cite la version latine, hein, « Ad mulierem menstruatam non acesserit », c'est-à-dire « Vers la femme menstruée, il, c'est-à-dire le sage, ne doit pas aller ». Donc ça, c'est le texte d'Ézéchiel dans sa version latine, et voici la glose de Jérôme. « Si quelqu'un y allait, on dit que les fœtus ainsi conçus contractent une difformité, si bien qu'ils naissent lépreux ou atteints d'éléphantiasis à cause de cette corruption, et que leurs corps de l'un ou l'autre sexe sont laids avec des membres petits ou déformés. » Alors, à la suite de ce texte de Jérôme, il va y avoir de nombreux auteurs chrétiens, notamment saint Augustin, hein, qui est à peu près son contemporain, et puis d'autres encore, avec des variantes, puisque donc, Jérôme disait comme nature du danger, lépreux ou atteint d'éléphantiasis. On va trouver aussi boiteux, aveugle, épileptique, etc. Et ce qui est intéressant et curieux, c'est que on n'a pas de traces antérieures écrites à ce texte de Jérôme, ni chez les auteurs gréco-romains, ni dans la Bible. Donc on pourrait s'interroger sur ce basculement, qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'un danger plutôt pressenti pour l'homme à un danger plutôt pressenti pour le fœtus. Et par rapport à, à cette question, j'ai trouvé une hypothèse assez intéressante faite par la chercheuse Cathy McClive, qui s'est intéressée dans un article aux menstrues à l'époque moderne plutôt, c'est-à-dire 16e et 17e siècle, mais sa réflexion est évidemment applicable au Moyen-Âge. En effet, elle dit ceci, « On remarquera aussi que l'insistance de la doctrine catholique sur la procréation et sur le danger corporel que fait encourir le sang menstruel au fœtus plutôt qu'à l'homme » servait à démarquer l'Église catholique de la tradition hébraïque, puisque les notions d'impureté et de souillure sont d'origine juive. Donc ça, c'est donc dans un article qui s'appelle « Engendré durant les menstrues, devoir conjugal et interdit sexuel à l'époque moderne ». Alors, elle évoque ces notions d'impureté et de souillure qui, effectivement, reviennent beaucoup dans les textes chrétiens médiévaux comme étant des notions de ce que les auteurs médiévaux appellent l'ancienne loi ou la loi des Juifs. Et eux s'en démarquent en se réclamant du Nouveau Testament, qu'ils appellent aussi la nouvelle loi. Donc, on le retrouve pour... De nombreux aspects, notamment en ce qui concerne la nourriture, par exemple. Hein, la question que certaines nourritures puissent être impures est quelque chose qui apparaît dans l'Ancien Testament, mais qui disparaît complètement du Nouveau Testament. Donc il en va de même de la menstruation. Donc l'impureté de la menstruation apparaissait dans l'Ancien Testament dans le chapitre 15 du Lévitique, où on a toute une énumération de ce qui est rendu impur par les menstrues ou par une femme menstruée. Et en ce qui concerne notre scénario, c'est-à-dire coucher avec une femme menstruée, voici ce qui est dit donc dans ce chapitre 15 du Lévitique, au verset 24. « Si un homme a couché avec elle pendant le temps de son sang menstruel, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit dans lequel il aura dormi sera souillé. » Donc on a bien clairement, là, dans le Lévitique, l'idée d'un danger pour l'homme, et il s'agit d'un danger d'impureté. Et donc, il semblerait, et ça me semble effectivement tout à fait cohérent, que les auteurs du Moyen-Âge chrétien aient cherché à se démarquer de cette notion d'impureté, mais comme ils souhaitaient quand même montrer l'aspect négatif de cette relation sexuelle en période de menstrues, ils ont décalé la victime de l'homme vers l'enfant, et ils ont décalé la nature du danger de quelque chose qui serait de l'ordre d'une impureté morale, plutôt, à un danger sanitaire. Donc, effectivement, pendant toute la période chrétienne du Moyen-Âge, seul le danger pour les enfants est évoqué. Donc, on a vaguement, j'ai trouvé quelques références où c'est le danger pour le père apparaît, mais c'est vraiment très allusif et plutôt dans des textes d'ailleurs de fin d'Antiquité que du Moyen-Âge proprement dit. Et donc, on n'a pas d'autres allusions explicites avant qu'on arrive à la fin du XIIIe siècle et à notre De Secretis Mulierum. Toutefois, même si on n'a pas d'autres allusions explicites à ce danger pour l'homme, on a de nombreuses allusions implicites qui apparaissent dans des sortes de variantes de notre scénario, où on va avoir par exemple un lien entre le sang et la lèpre, ou entre le sang et le poison, mais sans avoir tous les éléments du scénario. Donc ça, j'y reviendrai dans la dernière partie de cette communication, et on verra qu'on est finalement assez proche du scénario des textes de type secret des femmes. Mais auparavant, et avant d'avoir aussi évoqué d'autres textes qui au contraire s'éloignent du scénario, je voudrais explorer deux variantes de ce scénario dans les textes de mon corpus, qui sont vraiment originales par rapport à toutes les sources médiévales. Donc ce sera l'objet de ma troisième et de ma quatrième partie. Troisième partie, un rendez-vous galant sanglant. Là, je vais vous parler d'un cas particulier dans les textes de type secret des femmes, une anecdote intime révélant la confusion entre sang menstruel et semence féminine. Je vous lis le texte. Donc c'est un extrait du De Secretis Mulierum, donc du premier texte du corpus. J'ai en effet entendu une fois en confession un compagnon qui me demandait la cause pour laquelle, alors qu'il dormait avec sa chérie, laquelle était jeunette et lui-même était jeune, comme il venait de pratiquer le coït, il a trouvé son ventre jusqu'au nombril couvert de sang. Et il a eu très peur, parce qu'il en ignorait la cause, et il n'avait pas osé s'écarter de sa jeune chérie à cause du grand amour qu'il y avait entre eux. Mais ce flux n'était pas le flux des menstrues, mais de la semence, c'est-à-dire de la menstrue, coulant pendant le coït à cause de l'abondance de la matière. Mais cela arrive quelquefois que les menstrues coulent pendant le coït. Et alors, parfois c'est utile aux femmes, parfois cela leur est nocif, selon qu'elle a plus ou moins de matière. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très surprenantes dans ce texte. Je vais commencer par ce qui est surprenant par rapport à l'ensemble, l'aspect surprenant de ce texte, ce passage précis, par rapport à l'ensemble du traité du De Secretis Mulierum. Premier point, c'est une anecdote qui est présentée comme presque personnelle, puisqu'elle est rédigée à la première personne, et que la personne qui a vécu cette petite aventure, ce n'est pas le narrateur, mais c'est quelqu'un qui est très proche du narrateur, dont il a eu un témoignage direct. Deuxième élément, qui est cette personne qui est le héros de cette aventure? Il s'agit visiblement d'un moine, puisque, alors moi j'ai traduit, j'ai entendu une fois en confession un compagnon, dans le texte latin, il est écrit « in confessione societatis », c'est-à-dire dans la confession, si on traduisait mot à mot, de la société, mais le mot « societatis » est le nom générique pour désigner une personne qu'on appelle « socius », et « socius » en latin est le mot habituellement utilisé pour désigner un moine par rapport à d'autres moines, ou un frère, un frère au sens religieux. Donc il s'agit bien d'un moine et on pourrait être surpris puisque, oui, puis de plus le narrateur lui-même, comme je l'ai dit au début du texte, se présente lui-même comme un moine. Donc s'il parle d'un compagnon, d'un socius, ça veut dire que ce compagnon est bien aussi un moine. Donc on peut être un petit peu surpris que ce texte qui parle de relations sexuelles ne soulève de la part du narrateur aucune remarque morale sur le fait que ce soit répréhensible, alors même que c'est un texte quand même qui aborde pas mal de notions de morale et de critique, donc c'est un deuxième élément assez surprenant. Le troisième élément que je trouve surprenant, c'est que dans ce traité De Secretis Mulierum, qui est extrêmement misogyne, par ailleurs, on a ici, dans ce passage précis, un petit tableau presque idyllique, où la partenaire sexuelle est qualifiée en latin de dilecta, que j'ai traduit par sa chérie, et il est question de amorem magnum inter eos, c'est-à-dire le grand amour qu'il y avait entre eux, à savoir un amour réciproque. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez peu couramment évoqué à cette période du Moyen-Âge, qu'un amour réciproque, et qui plus est, entre un moine et une personne du sexe féminin. Alors, pour tous ces points un petit peu surprenants, je n'ai pas trouvé d'explication. Je les laisse comme ça en suspens, et puis peut-être que quelqu'un trouvera un jour une explication. Il y a un autre aspect qui pourrait sembler curieux pour nous dans ce texte, c'est cette menstrue au singulier, pardon, qui n'est pas des menstrues au pluriel. Je vous relis la phrase. « Ce flux n'était pas le flux des menstrues, mais de la semence, c'est-à-dire de la menstrue coulant pendant le coït à cause de l'abondance de la matière. » Alors, pour comprendre cela, il faut savoir que chez beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge, la menstrue au singulier, notamment à partir du XIIIe siècle, la menstrue au singulier désigne la semence féminine. Donc il ne s'agit pas des menstrues, même si il y a souvent une confusion, une ambiguïté, et les choses ne sont pas toujours très simples à distinguer. Seulement, quand ces textes parlent de la menstrue dans le sens de la semence féminine, elle est en général présentée comme une humeur blanche ou claire, et on explique alors si le lien est plus précis par rapport au menstrues, on explique que ça blanchit. Si on considère que c'est une humeur complètement différente, elle a en tout cas cette couleur différente. Et en général, cette humeur blanche que l'on appelle la menstrue et qu'on assimile à la semence féminine, semble être, au niveau de l'observation, ce que nous on appellerait soit les sécrétions vaginales causées par le plaisir, soit les pertes blanches ou leucorrhée qui arrivent à certains moments du cycle menstruel. Mais dans ce texte précis, le jeune moine, qui n'a visiblement aucune connaissance médicale, puisqu'il est apeuré par ce qu'il voit et qui demande de l'aide et des renseignements au narrateur, parle bien de sang. Donc s'il parle de sang, c'est qu'il a visiblement vu quelque chose de rouge. Or, c'est la seule fois, dans les textes que j'ai pu voir qui parlent de la menstrue, que c'est explicitement présenté comme quelque chose de rouge. C'est pourquoi, même si on pourrait dire, bah oui, mais alors ça rentre pas dans notre scénario, puisque la menstrue, c'est la semence féminine, il n'y a rien à voir avec les menstrues. Mais vous voyez, encore une fois, cette confusion, cette ambiguïté, si là, il s'agit bien d'une humeur désignée comme du sang, de quel sang s'agit-il ? Et donc, on se rapproche à nouveau des menstrues. Alors, ce qui est intéressant par rapport à notre scénario, c'est que ici, aucun danger n'est évoqué pour l'homme, si ce n'est la peur. En revanche, un danger est évoqué pour les femmes. Alors là, plutôt dans le cas des menstrues que de la menstrue, mais la phrase vient juste après, donc on voit là encore la confusion entre les deux, et l'auteur nous dit « Cela arrive quelquefois que les menstrues coulent pendant le coït, et alors parfois c'est utile aux femmes, parfois cela leur est nocif. » Donc voilà pour ce passage qui fait d'autre part l'objet d'un long commentaire dans le commentaire B qu'il aurait été aussi très intéressant de commenter et d'analyser ici, mais le temps nous manque. Je vais maintenant passer à ma quatrième partie où on va aborder un autre cas particulier dans les textes de type secret des femmes, le cas du fer dans la vulve. Ma quatrième partie s'intitule « Fer tranchant, substance corrosive et transfusion de sang contaminé, le danger extrême ». Alors, je vous lis d'abord le passage correspondant dans le De Secretis Mulierum. « Et sachez, mes compagnons, que, bien que certaines femmes cachent la cause de ce phénomène, et que d'autres, comme elle est cachée, l'ignorent, certaines en connaissent l'effet. Et plusieurs maux se produisent de ce fait lorsqu'un homme est en coït avec elle. Il arrive quelquefois à des hommes une lésion grande et grave venue d'une infection du membre viril par elle et par l'apposition d'un fer, dans la mesure où certaines prostituées sont expertes en cela et dans d'autres choses semblables. » Donc, dans ce premier texte, l'auteur ne précise pas qu'il s'agit de femmes menstruées, il dit « certaines femmes ». Et donc il reste beaucoup dans le vague et dans le mystère, et il termine son évocation par une phrase encore plus mystérieuse, que je n'avais pas mise dans le diaporama, mais que je vous cite, donc juste après le passage que je viens de vous lire. « Et s'il était permis de le dire ici, j'écrirai certaines choses, mais parce que je crains mon propre créateur, je ne révélerai rien, ni des choses cachées jusqu'ici, ni d'autres du même type. » Donc vous voyez qu'avec ce genre de phrase, on est vraiment en plein dans l'idée du titre, hein, de secret des femmes, de révéler ou cacher des choses secrètes, de les évoquer sans vraiment les dire. Mais évidemment, ça laisse le lecteur sur sa faim. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces choses cachées dont il ne veut pas parler? Et puis, bah, ces fameuses femmes qui cause un danger avec cette infection du membre viril et cette apposition d'un fer. Est-ce qu'il s'agirait des femmes menstruées ou pas? C'est pas dit explicitement. Donc on serait peut-être un petit peu gêné pour interpréter ce texte si on n'avait que ça. Mais heureusement, on a les commentaires. Donc le commentaire A et le commentaire B. Donc voici ce que dit d'abord le commentaire A. Note que certaines femmes sont si rusées et fourbes qu'elles prennent un fer et se le mettent dans la vulve. Et ce fer blesse la verge, mais l'homme ne s'en rend pas compte à cause de l'excès de plaisir et de douceur de la vulve. Mais c'est plus tard qu'il le sent. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention à ne pas pratiquer le coït avec des femmes menstrueuses, parce que de ce fait, un homme pourrait contracter la lèpre et parfois une grande infirmité, parce que les veines traversent chaque organe jusqu'aux testicules, et quand ceux-ci sont blessés, Tout le corps est rapidement blessé. Vous aurez peut-être reconnu dans la fin de ce texte un passage du texte que j'ai cité en ouverture de la communication. Voici ce que dit maintenant le commentaire B. Certains commentateurs disent que ce fer doit être aiguisé et effilé. Et quand les femmes subissent leurs menstrues, si alors des hommes pratiquent le coït avec elles, elles ont parfois l'habitude, soit par vengeance, soit pour une autre méchanceté, de blesser la verge virile. Et alors la menstrue qui se trouve dans la vulve de la femme entre dans cette blessure et l'infecte de son venin. Car la verge est un organe poreux et fin, et c'est pourquoi cette matière est rapidement absorbée par elle. Et parce que toutes les veines convergent à cet endroit, cette matière se répand dans tout le corps. Alors, vous voyez que là, on est un petit peu plus explicite, puisque on explique bien qu'il s'agit de femmes menstruées, et on explique le processus par lequel se produit cette blessure. Qui est donc, j'y reviendrai, une double blessure, hein, puisqu'on a d'abord, d'une part, une blessure physique par le fer qui entaille la peau, et en même temps une blessure chimique par une transfusion de sang du sang menstruel de la femme vers le sang de l'homme. Donc cette histoire de fer est plutôt une curiosité, puisque ça n'apparaît dans aucun autre texte que dans nos textes de type secret des femmes. Alors certains chercheurs d'aujourd'hui ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un stérilet, ce qui me semble assez peu probable parce qu'on est quand même assez loin des pratiques qui peuvent être évoquées au Moyen-Âge. Et là, il y a quand même une insistance plutôt sur le côté tranchant du fer que sur son côté, son aspect de barrière. D'autres ont pensé que ça pouvait être mis en relation avec des pratiques évoquées dans d'autres textes du Moyen-Âge concernant la fausse virginité, puisque effectivement on trouve dans certains textes du Moyen-Âge l'idée que si une femme qui n'est pas vierge souhaite simuler la virginité lors de sa nuit de noces, elle peut s'introduire dans le vagin du ver pilé, d'après certains textes, ou des sangsues, d'après d'autres textes. Donc ça, c'est une piste intéressante, mais qui ne peut pas complètement être invoqué ici, puisque le texte lui-même du De Secretis Mulierum disait « Certaines prostituées sont expertes en cela », donc pour les prostituées, évidemment, il n'y a aucun enjeu à simuler la virginité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le commentaire B lui-même, le commentateur du commentaire B est lui-même visiblement intrigué par ce fait et essaie de trouver une explication rationnelle. Donc, explication qui est très intéressante et que je vous lis. Il est vrai que, bien que cette explication convienne bien pour le texte, l'expérience nous montre pourtant le contraire, puisqu'un homme peut sentir une pareille lésion. Donc là, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ça semblerait étrange qu'un homme ne se rende pas compte que sa verge est en train d'être entaillée par du fer. C'est pourquoi il est expliqué plus loin que par « fer », il faut comprendre un cautère potentiel ou réel. En effet, il y a deux sortes de cautères selon les médecins, potentiel et réel. De la première sorte, on trouve les substances médicinales corrosives qui cautérisent la chair ou quelque organe de manière à ce qu'il soit blessé, comme l'alun, la chaux et les produits similaires. Mais le cautère réel est un instrument en fer à l'aide duquel on fait une blessure dans quelque organe pour que les humeurs en soient extraites. Je fais donc l'hypothèse qu'Albert parle du premier sens de fer et non du second. Il faut en effet savoir que certaines femmes qui savent cela placent de ces substances corrosives dans la partie basse de leurs membres, et parce qu'au moment du coït, le membre viril est particulièrement poreux, il est rapidement corrodé et blessé par ces substances. Alors, cette piste me semble plus intéressante parce que, pour le coup, le fait de se mettre de la chaux ou de l'alun dans le vagin pourrait être interprété comme un contraceptif. Donc, on se rapprocherait finalement de l'hypothèse du stérilet, mais il s'agirait ici d'un stérilet chimique. Alors, en effet, j'ai trouvé une source chez un auteur arabe, Ibn al-Jazar, qui a été traduit en latin par Constantin l'Africain au XIe siècle. Donc ça a très bien pu être lu par l'auteur du De Socratis Mulierum. Et Ibn el-Jazar, traduit par Constantin l'Africain, donne une recette où une femme peut s'introduire de l'alun dans le vagin comme contraceptif. Donc il est tout à fait possible ici que ce soit ce dont il s'agit. Voilà, pour la que ce soit une sorte de contraception qui n'aurait pas pour but de blesser la verge de l'homme, mais simplement de ne pas avoir d'enfant. Donc j'ai évoqué aussi tout à l'heure le fait que voilà que on a une double blessure, hein, cette blessure mécanique par l'action, que ce soit par l'action du fer ou par l'action d'une substance corrosive qui est une lésion cutanée, et puis la blessure chimique qui est une sorte de transfusion du sang menstruel qui entre dans l'organisme par cette lésion. Donc la question que je me pose maintenant est celle de l'attitude des femmes d'après les auteurs de ces textes. En effet, c'est toujours une attitude volontaire qui est présentée. Et donc ça remet un petit peu en cause, je pense. En tout cas, ça ne remet pas forcément en cause, mais ça semble être présenté comme quelque chose de plus grave ou intentionnel qu'un simple dégât collatéral lié à un contraceptif. Puisqu'en effet, les auteurs insistent d'une part sur l'aspect conscient de ces femmes. Donc certaines en connaissent les faits, c'est ce qui a été dit dans le De Socratis Mulierum, et non seulement sur l'aspect conscient, mais sur l'aspect volontaire. Le commentaire A dit « certaines femmes sont si rusées et fourbes », le commentaire B dit qu'elles savent très finement blesser les hommes, donc ça c'était dans un passage un petit peu avant ce que je vous ai cité, et puis dans le passage que j'ai cité, qu'elles le font soit par vengeance, soit pour une autre méchanceté. Donc on a vraiment une idée d'intentionnalité et qui est donc bien plus que juste un dégât collatéral d'un contraceptif, mais vraiment l'intention volontaire de blesser l'homme. La dernière question qu'on pourrait se poser, c'est, mais ça semble un petit peu bizarre, qu'il s'agisse d'un fer ou d'une substance corrosive, que les femmes, en voulant blesser les hommes, ne se blessent pas elles-mêmes. Et là aussi, notre commentateur du commentaire B, qui est décidément très rationnel, s'est posé la question et propose des éléments de réponse. Je vous lis ce qu'il dit. Mais quelqu'un pourrait dire, pourquoi la femme ne se blesse-t-elle pas elle-même ? Je dis que c'est parce que la vulve n'est pas aussi poreuse que la verge. Ou cela peut s'expliquer autrement et mieux, parce que, avant de placer ces substances corrosives, elles prennent de l'huile de rose et elles en enduisent leurs membres. Et ainsi, elles ne sont pas blessées. Alors, en ce qui concerne la blessure chimique, c'est-à-dire le fait que le sang menstruel, en fait, soit toxique, et que c'est pour ça que c'est dangereux qu'il y ait une transfusion de ce sang menstruel. C'était expliqué déjà par l'auteur du De Socratis Mulierum, par le fait que les femmes, en fait, étant entièrement imbibées de ce sang menstruel dans leur corps depuis leur puberté, elles sont en quelque sorte immunisées contre cette toxicité. Donc ça expliquait la blessure chimique. Pourquoi les femmes n'en souffrent pas. Mais là, l'auteur du commentaire B se pose la question sur la blessure mécanique. Comment ça se fait qu'en se blessant, que ce soit avec du fer ou une substance corrosive, les femmes ne soient pas blessées. Donc voilà, première hypothèse, hein, la vulve n'est pas aussi poreuse que la verge. Voilà, la peau de la vulve serait une espèce de cuir coriace qui n'a rien à voir avec la finesse et la fragilité de la peau de la pauvre petite verge masculine. Et deuxième hypothèse, un petit peu d'huile de rose et puis hop, tout va passer et même une blessure grave va être atténuée. Donc évidemment, je pense que l'auteur se faisait quelques illusions et je ne vous recommande pas d'essayer de guérir avec juste un peu d'huile de rose une telle blessure. Alors, après avoir présenté donc, le scénario dans les textes de type Secret des femmes et ces deux cas particuliers du scénario, je voudrais dans ma cinquième partie faire un petit pas de côté et voir comment certains auteurs du Moyen-Âge, très proches de nos Secrets des femmes, dans le temps et dans le milieu, pouvaient avoir une vision complètement différente de ce scénario, comme vous allez le voir. Alors, c'est ma cinquième partie qui s'intitule Cas de conscience dans la chambre à coucher, du danger physique au danger moral. Et on parlera donc d'une préoccupation contemporaine chez Albert Le Grand et Thomas d'Aquin, pas d'inquiétude sur un danger physique, mais uniquement sur un risque de péché qui n'est pas forcément où on l'attendrait. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le De Secretis Mulierum était faussement attribué à Albert le Grand. Et on dit souvent que son auteur s'est inspiré de lui et était un élève à lui. Quant à Thomas d'Aquin, il était lui-même élève d'Albert le Grand et il est donc contemporain de l'auteur du De Secretis Mulierum. D'autre part, pour certains points, certaines idées qui sont à peine esquissées dans les œuvres d'Albert le Grand ou de Thomas d'Aquin ont été largement développées et aussi dévoyées par l'auteur du De Secretis Mulierum et des autres ouvrages de type Secret des femmes. On peut citer par exemple le lien entre le regard d'une femme menstruée et le regard d'un basilic, hein, qui était à peine évoqué vraiment comme un comparant chez Albert le Grand et Thomas d'Aquin et qui devient un élément presque, on n'est plus du domaine de la comparaison, mais presque une assimilation dans les textes de type Secret des femmes. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand on a un aspect traité dans les textes de type Secret des femmes d'aller voir ce que Albert le Grand et Thomas d'Aquin disaient sur cet aspect. Donc, que disent-ils sur le coït en période menstruelle? Eh bien, comme tous les auteurs chrétiens médiévaux, et comme je l'ai déjà dit dans la deuxième partie, il n'y a pas d'évocation du danger physique pour l'homme, mais pour le fœtus. Cela étant, les choses sont assez différentes de notre scénario des Secrets des femmes. Je vous lis d'abord le texte d'Albert Legrand. Il y a beaucoup de choses qui donnent la lèpre, comme la proximité des lépreux, la consommation de viande mélancolique, comme la viande d'âne, et par lesquelles pourtant il n'y a pas de péché mortel. Ce sont des maladies et non des fautes. Et il n'est pas rationnel que, à cause d'une déficience naturelle, quelqu'un pêche mortellement en pratiquant ce qui lui est dû légalement. À cause de cela, nous déclarons qu'approcher d'une femme menstruée qui est son épouse, nous ne pensons pas que ce soit un péché mortel. Et il dit un petit peu plus loin, donc s'abstenir d'une femme menstruée est une bonne action, et cependant il ne s'ensuit pas que l'opposé soit une mauvaise action, de même qu'aller outre-mer est une bonne action, mais que l'opposé n'est pas une mauvaise action. Alors j'aime beaucoup cette dernière comparaison. Aller outre-mer, c'est la manière qu'on avait au Moyen-Âge de dire aller à la croisade. Albert le Grand nous dit, bah oui, si vous avez la possibilité d'aller à la croisade, bah c'est vraiment bien, mais si vous ne le faites pas, on ne va pas vous le reprocher, c'est pas un péché. Donc là, c'est pareil, si vous pouvez éviter de coucher avec votre femme en période menstruelle, bah c'est bien, mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas un péché. Alors, pourquoi il le dit de manière un petit peu allusive, qui n'est peut-être pas très claire, quand il dit ce n'est pas rationnel qu'à cause d'une déficience naturelle, quelqu'un pêche mortellement en pratiquant ce qui lui est dû légalement. Donc là, il est assez implicite et il faut aller voir le texte de Thomas d'Aquin pour comprendre, puisque lui va être beaucoup plus explicite. Thomas d'Aquin nous dit ceci. Approcher une femme menstruée était prohibé dans la loi pour une double raison. D'une part à cause de l'impureté, d'autre part à cause de la nocivité qui suit souvent pour la progéniture ce genre de relation. Donc, déjà dans ce premier texte, Thomas d'Aquin revient à ce que je disais tout à l'heure sur la volonté des auteurs chrétiens de se démarquer de l'ancienne loi, hein, qu'il appelle ici la loi, qui est donc l'Ancien Testament. Et il dit explicitement hein, que la raison était l'impureté, mais que l'impureté, les questions d'impureté n'ont plus cours, enfin ça il ne le dit pas explicitement, mais il le dira ailleurs, que les questions d'impureté n'ont plus cours dans le monde chrétien. Et il évoque donc cette nocivité qui suit souvent pour la progéniture ce genre de relation, mais de même que Albert le Grand dans le passage précédent, hein, qui disait bah voilà, c'est nocif, on peut avoir la lèpre, mais bon, bah, comme on peut avoir la lèpre aussi par en mangeant de la viande d'âne, et c'est pas quelque chose qui est un péché mortel. Et Thomas d'Aquin poursuit en disant « Une femme menstruée ne doit pas être une occasion de péché pour l'homme. Or, si, alors que l'homme demande le devoir c'est-à-dire le devoir conjugal, hein, donc avoir une relation sexuelle, or, si, alors que l'homme demande le devoir, elle ne lui rend pas, même au moment de ses menstrues, c'est une occasion de péché pour l'homme parce qu'il pourrait forniquer. » C'est-à-dire, bah, en gros, si une femme dit, bah, comme on dit aujourd'hui, hein, « pas ce soir, chérie, j'ai mes règles », le mari va être tenté d'aller voir ailleurs et risque d'avoir des relations sexuelles avec une autre femme, donc de pratiquer l'adultère. Et on se trouve ici avec, avec un péché mortel qui est bien plus grave que tous les risques qu'il pourrait y avoir en pratiquant le coït avec sa femme si elle est menstruée. Donc, je trouve que c'est très intéressant de regarder ces textes parce qu'on voit qu'un scénario qui pourrait sembler assez prégnant sur tout le Moyen-Âge n'est pas forcément toujours évoqué comme le plus courant et que ici, bah, finalement, pour les théologiens que sont Albert le Grand et Thomas d'Aquin, c'est finalement pas si grave et il y aurait bien plus grave s'il y avait infidélité du mari à sa femme. Alors, après avoir évoqué ces deux aspects, on peut se demander bah, finalement quelle tendance va l'emporter. Est-ce que ça va être les craintes argumentées de ces théologiens, comme Albert le Grand ou Thomas d'Aquin, ou est-ce que ça va être le scénario de l'horreur que j'ai présenté dans les trois premières parties dans les textes de type Secret des femmes ? Alors, c'est bien ce scénario qui va l'emporter, le scénario de l'horreur, comme je vais vous le montrer dans ma sixième et dernière partie. Bain de sang menstruel, femme poison, vierge massacreuse et souffle de sorcière, le succès du scénario de l'horreur. Donc on va aborder ici une préoccupation contemporaine et aussi plus tardive, des variantes du scénario, témoin de son ancrage solide. Donc, on voit apparaître à la même époque, c'est-à-dire au XIIIe siècle, l'idée d'un corps féminin toxique et dangereux pour l'homme, plus ou moins explicitement lié à la menstruation. Ce n'est jamais aussi explicite que le scénario des textes de type Secret des femmes, à savoir que le coït avec une femme menstruée engendre un danger sanitaire pour l'homme, ce danger sanitaire étant le plus souvent la lèpre. Mais on a des variantes qui tournent autour, par exemple le lien entre sang menstruel et lèpre sans que le coït soit forcément évoqué, ou de manière plus vague, le lien entre sang et lèpre sans précision qu'il s'agisse de sang menstruel. Le lien entre le coït avec une femme et un danger sanitaire pour l'homme sans qu'il soit forcément question de menstrues ou de lèpre. Ou encore le lien entre le contact avec une femme mal intentionnée et la lèpre, sans qu'il soit forcément question de menstrues ni de coït. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est le lien entre le sang menstruel et la lèpre. Alors, bon, il y aurait énormément d'exemples qu'on pourrait citer, hein. J'ai choisi d'en citer quelques-uns. J'ai fait ce choix parce que c'est des textes, comme vous allez le voir, qui sont très différents, de nature très différente. On trouve dans le Picatrix, qui est un recueil de recettes magiques du XIIIe siècle, la mention suivante. « Le sang menstruel administré à quelqu'un donne la lèpre, et celui qui en a sur soi quand il se baigne trépasse aussitôt. » On pourrait aussi évoquer des nombreux traités de poison du XIVe et du XVe siècle, où il est dit que l'ingestion de sang menstruel ou que son contact donne la lèpre. Un petit peu plus tôt que notre époque du XIIIe siècle, on avait au XIIe siècle Hildegard de Bingen qui semble à l'opposé puisqu'elle préconise au contraire un bain contenant entre autres du sang menstruel pour guérir de la lèpre. Sauf qu'elle précise que cela agit, je la cite, « comme un ennemi contre son ennemi, car la lèpre est issue des humeurs féminines, donc une action qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une action homéopathique. On a enfin de nombreux exemples dans la littérature, notamment dans des romans de chevalerie, comme ceux de Chrétien de Troyes ou Tristan et Iseut, donc là on est aussi plutôt au XIIe siècle. Il y a des liens explicites entre le sang et la lèpre, ce sang n'est jamais qualifié de menstruel, mais dans certaines scènes, on a de nombreux indices. Hein, donc on pourrait évoquer certaines scènes dans Tristan et Iseut, alors avec Tristan qui se déguise en lépreux, et puis un passage où il y a une nuit d'adultère avec Iseut et il perd du sang, et puis dans les romans de Chrétien de Troyes avec Lancelot qui également perd du sang dans sa nuit d'adultère, avec dans Perceval un roi qui est paralysé du bas du corps et qui perd du sang par l'aine, une sorte d'équivalent masculin de la vulve, etc. Donc on voit que tout ça reste peut être plus ou moins explicite. Deuxième point, le lien entre le coït avec une femme et un danger sanitaire pour l'homme. Alors, il y a d'abord une histoire qui apparaît de manière très fréquente dans les textes du Moyen-Âge, c'est l'histoire de la pucelle venimeuse. Alors, de quoi s'agit-il ? On trouve ça dans des histoires qui parlent d'Alexandre le Grand. Et on raconte, donc ça on ne le trouve pas du tout dans les textes de l'Antiquité, hein, ça n'apparaît qu'au Moyen-Âge, on raconte qu'un roi ennemi d'Alexandre le Grand lui aurait offert une jeune fille, et que la particularité de cette jeune fille, c'est que depuis son enfance, elle a été nourrie de poison, à tel point que son corps est entièrement venimeux, qu'elle-même, comme elle a été nourrie petit à petit, elle est immunisée. Donc on retrouve cette notion d'immunité du corps féminin par rapport à une substance toxique que j'ai déjà évoquée, cette idée de porteur sain, d'un porteur sain d'une maladie toxique. Et donc cette année, alors évidemment Alexandre le Grand ne meurt pas à cause de cette jeune fille parce que son maître Aristote dévoile le poteau rose et lui conseille de ne surtout pas, évidemment surtout pas coucher avec elle, mais même de ne surtout pas la toucher. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire apparaît, donc je vous ai dit au Moyen-Âge, mais pas n'importe quand au Moyen-Âge, elle apparaît précisément à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et à partir de là, elle se répand dans de nombreux textes. Hein. On a au moins une dizaine de textes, si ce n'est plus, qui soit racontent cette histoire dans les détails, soit simplement l'évoquent. Et on peut la retrouver, par exemple, dans le commentaire B de notre De Secretis Mulierum. Hein. Donc je vous lis le passage, c'est très court. Une certaine jeune fille avait tellement pris l'habitude de consommer du poison qu'elle était entièrement venimeuse. Et ensuite, par sa fréquentation, elle a tué de nombreux rois et seigneurs. Donc dans ce court passage, il n'est pas question d'Alexandre le Grand, mais on voit que c'est bien toujours cette histoire-là à laquelle il est fait allusion. Alors, une autre histoire qui, elle, n'apparaît que dans une seule source, c'est dans un recueil de nouvelles qui s'intitule « Les 100 nouvelles nouvelles ». Donc, on est un petit peu plus tard, là, on est au milieu du XVe siècle, et il s'agit de la 55e nouvelle. Alors, cette nouvelle raconte l'histoire d'une jeune fille qui a la peste, et qui se sait condamnée à mort, elle souhaiterait connaître le plaisir sexuel avant de mourir. Donc elle s'arrange avec un jeune homme qui est ravi de l'occasion, et elle a une relation sexuelle avec ce premier jeune homme, mais elle l'épuise parce qu'elle est insatiable, et le jeune homme finit par mourir. Puis elle s'arrange pour avoir une relation sexuelle avec un deuxième jeune homme qui a le temps, avant de mourir, lui aussi, de prévenir un troisième jeune homme qui, lui, s'arrête à temps et, complètement effaré par l'ampleur de la situation, prévient les parents du danger de leur fille. Entre-temps, elle prend le fils de son voisin cordonnier qu'elle fait mourir aussi. Et finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'à la fin, elle-même survit. Donc je vous lis un petit passage assez emblématique de la nouvelle. « Toutefois, car il avait tant labouré que plus ne pouvait, il fut content d'aller quaire, c'est-à-dire d'aller chercher, son compagnon. et l'amena devant elle, qui tantôt le mit en besogne, et le laissa ainsi que l'autre. Quand elle l'eut maté comme son compagnon, elle ne fut pas moins privée de lui dire son courage, mais lui pria, comme elle avait fait l'autre, d'amener vers elle un autre gentilhomme, et il le fit. Or, sont déjà trois qu'elle a laissés et déconfie par force d'armes. Mais vous devez savoir que le premier gentilhomme se sentit malade et féru de l'épidémie. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'auteur laisse planer le doute sur la cause de la mort. Est-ce qu'il meurt du fait de la peste ou est-ce qu'il meurt du fait d'épuisement par la relation sexuelle? Et en réalité, on a des indices des deux. Elle les enchaîne l'un après l'autre parce qu'ils sont épuisés par la relation sexuelle. Mais ce n'est que plus tard qu'il meurt. Et vous avez vu dans l'extrait que je vous ai lu qu'on dit bien qu'il est féru de l'épidémie. Il a été frappé, il est mort de l'épidémie. Donc on a vraiment une imbrication dans ce texte entre la relation sexuelle et la maladie, et c'est quelque chose qui est là aussi très proche de notre scénario. Le dernier point que je voulais évoquer dans ces variantes du scénario, c'est le lien entre le contact avec une femme mal intentionnée et la lèpre. Alors ça, on le trouve dans un ouvrage aussi de la fin du XVe siècle, cette fois-ci, un petit peu quelques décennies après les 100 nouvelles, qui s'appelle en latin le Malleus Maleficarum, c'est-à-dire le marteau des sorcières. Il s'agit donc d'un ouvrage écrit par deux inquisiteurs allemands dont le but était de servir de manuel pour des autres inquisiteurs pour reconnaître les sorcières, pour les arrêter, les faire avouer et mener donc leur procès qui aboutissait généralement à une exécution à mort. En fait, ce manuel est un ensemble de cas pratiques qui sont évoqués et la manière dont ils ont été traités par ces inquisiteurs. Donc, trois exemples sont évoqués d'une contamination de la lèpre, non pas une contamination sexuelle, mais une contamination par le souffle. Et là aussi, on a l'idée du porteur saint, hein, puisque la femme elle-même n'a pas la lèpre, mais par son souffle, par son haleine, donne la lèpre à quelqu'un. Et là aussi, on a l'idée de quelque chose de volontaire, puisque ce n'est pas par hasard en respirant à côté de la personne, mais qu'elle souffle directement, intentionnellement, sur la personne. C'est des éléments qu'on retrouve aussi dans nos textes de type secret des femmes, qui peuvent évoquer aussi une contamination toxique par l'haleine ou par le regard des femmes menstruées. Donc même si ici il ne s'agit pas explicitement de femmes menstruées, mais on a bien ce lien entre un souffle toxique venant d'une femme et la lèpre. Donc je vous lis un passage qui correspond au troisième exemple, au troisième cas pratique. Enfin, dans le même diocèse, sur le territoire de la Forêt Noire, une sorcière dit au bourreau qui la montait sur le tas de bois préparé pour son bûcher « Je te donnerai ton salaire ». Elle lui souffla au visage et aussitôt, frappé d'une horrible lèpre sur tout le corps, il ne survécut que quelques jours. Donc vous voyez ici la ressemblance avec notre scénario. Le plus impressionnant dans tous ces textes que je vous ai cités dans cette dernière partie, c'est la diversité des genres de textes qui contiennent ce motif ou ces variantes. Les fameux textes de type secret des femmes, c'est assez difficile de les classer parce qu'ils n'appartiennent pas vraiment à un genre précis, mais on pourrait dire qu'on est dans le pseudo-médical ou dans le pamphlet, on oscille un petit peu entre les deux. On l'a vu dans des livres de recettes magiques ou médicales, dans des traités de poison, dans des œuvres littéraires et enfin dans un manuel d'inquisition. Ce dernier étant le plus inquiétant car les conséquences sont directes au-delà des textes et ces conséquences sont clairement énoncées dans les trois exemples puisqu'on aboutit à chaque fois à une condamnation à mort. Or, ce texte lui-même étant un manuel pratique, il va susciter à son tour de nouvelles condamnations. Si je reviens après tout ce parcours sur la question que je posais au début de ma communication, à savoir pourquoi on en arrive à ce scénario précis dans les textes de type secret des femmes, à savoir que le coït avec une femme menstruée cause un danger sanitaire, en particulier la lèpre, pour l'homme, et notamment pourquoi pour l'homme et pas pour l'enfant. Alors on a vu que ça pouvait être pour se démarquer de l'Ancien Testament, Non, je veux dire, on avait vu que le fait que ce soit pour l'enfant et pas pour l'homme, c'était pour se démarquer de l'Ancien Testament. Et justement, on peut se poser la question, bah pourquoi là, dans ces textes de type secret des femmes, on revient de nouveau au danger pour l'homme qui n'avait pas du tout été évoqué dans les textes précédents. Alors encore une fois, pas évoqué de manière explicite, mais évoqué de manière implicite avec tous les textes qu'on vient de voir dans cette dernière partie. Donc vous voyez bien que tous ces textes, à partir surtout du XIIIe siècle, et on l'a vu un petit peu à partir du XIIe siècle, et ensuite ça se poursuit sur les XIVe et XVe siècles, s'ancrent dans un contexte misogyne. En ce qui concerne les textes de type secret des femmes, on est vraiment dans cette idée de contexte misogyne, puisque ça apparaît dans un passage du prologue que je ne vous ai pas lu, mais ce texte est présenté de manière très claire comme un traité destiné à faire peur aux lecteurs hommes, qui sont vraisemblablement des moines, alors faire peur du corps féminin, à les inciter à s'écarter le plus possible du corps féminin. Mais la réception de cet ouvrage dépasse largement les destinataires prévus, à savoir les moines, puisque, comme je vous l'ai dit, les centaines de manuscrits, les traductions dans toutes les langues, les commentaires, etc. Donc ce type de texte étend son influence à d'autres lecteurs et devient lui-même un élément de ce contexte misogyne, en n'étant plus seulement la conséquence, mais aussi la cause. Donc, si l'on conclut sur tout ce qu'on vient d'analyser dans cette communication, rompant avec des siècles de tradition qui attribuent au coït en période menstruelle un risque sanitaire pour l'enfant à naître, les textes de type secret des femmes déplacent l'objectif et font de l'homme la principale victime potentielle. En contradiction avec les textes des théologiens contemporains, comme Albert le Grand ou Thomas d'Aquin, qui tentent au contraire à retirer au coït en période menstruelle son caractère de péché, ils s'inscrivent néanmoins dans un bien plus vaste courant qui véhicule des craintes sur la toxicité du corps féminin en général. Ces craintes s'accentuent entre la fin du XIIIe et le XVe siècle, avec une montée de la misogynie dans l'Europe médiévale. Il ne s'agit malheureusement pas que d'une simple expression de préjugés ridicules, mais d'idées qui vont contribuer à des actions concrètes comme la chasse aux sorcières, qui est développée notamment par le manuel Malleus Maleficarum. Alors, faire l'amour en période menstruelle, un extrême danger, mais pour qui ? Pour les enfants à naître ? Eh bien, finalement, non. Pour les hommes ? Mais non plus. Dans la réalité, ce sont bien les femmes qui ont été les seules et principales victimes de cette croyance réelle à un danger imaginaire.